4h en temps universel, il est 6h ici à Paris. Une nouvelle demi-heure d'information avec vous, Gaëtan Plenet, bonjour.
Ah bonjour Arthur, bonjour à tous.
Et on commence avec le journal à la une, l'inquiétude des habitants de Damas.
Des Syriens qui sont de plus en plus nombreux à douter de la capacité des nouvelles autorités à garantir leur sécurité face aux groupes armés après une semaine d'affrontements sanglants contre la minorité druze. Reportage à suivre. L'Union africaine devant la Cour internationale de justice hier, elle a fermé le bal d'une semaine de plaidoirie face au blocage par Israël de l'aide humanitaire à Gaza. On va parler aussi de la liberté de la presse et sa journée mondiale ce samedi. On parlera aussi de ces législatives aujourd'hui, en Australie d'abord, mais aussi à Singapour. Là-bas, peu de suspense, le parti Action Populaire devrait à nouveau l'emporter. Et puis on sera en France où la procureure de la République de Nîmes en a dit un petit peu plus hier sur le profil de l'homme qui a assassiné un fidèle musulman la semaine dernière dans une mosquée du sud du pays. La Syrie a vécu cette nuit ses frappes les plus violentes depuis le début de l'année, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une vingtaine au total, israélienne, notamment contre des entrepôts et des sites militaires à Dera, près de Damas. Un civil tué, d'après l'agence officielle syrienne Sana. Ce ne sont pas les premiers bombardements du genre. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre dernier, Israël en a mené des centaines, très sceptiques vis-à-vis des nouvelles autorités syriennes, considérées, je cite, comme des djihadistes. Hier déjà, l'armée israélienne avait mené une attaque près du palais présidentiel de Damas, la présentant comme un avertissement contre toute atteinte à la minorité druze, meurtrie ces derniers jours par des affrontements avec des milices pro-gouvernementales, des affrontements qui auraient déjà fait plus d'une centaine de morts. À Damas, les habitants, druzes ou non, observent et s'inquiètent. Reportage de Mohamed Erami.
Les rues de Damas sont calmes en ce vendredi, mais une forme de calme étrange, pesant, beaucoup plus calme qu'à l'ordinaire. Ce matin, les habitants ont été réveillés par l'annonce des bombardements israéliens sur la zone de Kassioun, cette montagne qui surplombe Damas. Juste en contrebas, le quartier de Mezé, là, la peur s'est glissée dans le quotidien. Omar tient une supérette dans le quartier. Il est assis sur une chaise en plastique devant son commerce, les yeux rivés vers la montagne. Il regarde le ciel. Il parle avec colère d'Israël.
Nous n'avons ni armée réelle, ni aviation, ni système de défense capable de nous protéger contre les attaques israéliennes. Israël suit son projet bien défini pour la région et il semble décidé à avancer, que les pays arabes l'acceptent ou non.
Mohamed, 18 ans, discute des frappes avec ses amis. Revenu à Damas en 2022 après l'exil au Liban, il espérait une vie normale. Mais la guerre, il la connaît.
Israël est au cœur des conflits et c'est pour ça qu'il se présente en protecteur des druzes. Mais avec un Israël en grand méchant loup, les milices étrangères présentes chez nous en profitent pour aggraver la situation.
Dans une Syrie fragmentée où les milices échappent aux chaînes de commandement et où les puissances étrangères dictent la temporalité des combats, l'inquiétude n'est plus un sentiment passager, elle est devenue une condition de survie. Mohamed Erami, Damas, RFI.
42 personnes tuées hier à Gaza dans des frappes israéliennes, bilan de la défense civile locale qui évoque notamment une maison prise pour cible dans le camp de réfugiés d'Al-Bourej, dans le centre de l'enclave, une enclave où l'aide humanitaire n'entre plus depuis maintenant 2 mois, soumise à un blocus total par Israël. La Cour internationale de justice se penche d'ailleurs sur la question. Ces juges ont entamé leur délibéré hier soir et doivent maintenant rendre un avis juridique après une semaine au cours de laquelle 40 pays et 3 organisations se sont exprimés. Hier, la parole était à l'Union africaine, correspondance à La Haye de Stéphanie Maupa.
C'est l'Union africaine qui a refermé cette longue semaine de plaidoirie. Pour faire valoir ses arguments, la conseillère juridique de l'organisation continentale, la professeure Ager Geldish, a notamment évoqué devant les juges le drame de Gaza depuis le blocage de l'aide par Israël le 2 mars.
Quels seraient les mots justes pour qualifier le drame humain d'une population entière qui, depuis la fin du cessez-le-feu, c'est-à-dire plus de 60 jours maintenant, est privé d'eau, de nourriture, de carburant, d'aide médicale, de vaccins pour les enfants. Surtout que 3000 camions chargés d'aide humanitaire sont bloqués par Israël aux portes de Gaza.
Comme l'ont dit de nombreux pays, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les Comores ou encore la Namibie, l'organisation continentale estime qu'Israël a l'obligation de laisser passer l'aide humanitaire, de ne pas entraver le travail de l'UNRWA et des autres organisations. L'Union africaine a aussi demandé aux juges de rendre leur décision au plus vite. Stéphanie Mopa, La Haye, RFI.
C'est le doyen des journaux au Nicaragua, La Prensa, récompensé par le prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO. Lui qui ne publie plus en version papier depuis 4 ans face aux attaques des autorités. Ses employés ont même dû s'exiler à l'étranger pour continuer à travailler en ligne. Un prix remis alors que c'est aujourd'hui, samedi 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion de mettre en lumière les cas très nombreux de censure et de dérive. Le Nicaragua n'est pas en reste, 172e au classement de la liberté de la presse publié hier par Reporters sans frontières. L'Égypte n'est pas très loin, 170e. Pourtant là-bas, les journalistes respirent un petit peu depuis hier. L'opposant Khaled El-Balchi a été réélu à la tête de leur syndicat face à un candidat proche du régime. Correspondance de Martin Dumas-Primbaud.
Une vague de soulagement a déferlé sur le syndicat des journalistes égyptiens ce vendredi soir, quelques minutes après 22h.
On est très soulagés et heureux. On va pouvoir travailler dans un climat plus serein, plus professionnel.
Saïd Hassan, journaliste au quotidien Vito, redoutait la victoire du candidat adverse, soutenu et poussé par le régime.
Une défaite aurait été douloureuse. Il n'y a que Khaled qui défend nos libertés, nos droits et se bat pour les faire appliquer.
Sous sa présidence, le syndicat est devenu un symbole, le dernier espace de mobilisation, notamment pour Gaza, alors que toute manifestation est interdite depuis plus de 10 ans.
Les marches devant le syndicat sont devenues un lieu de protestation hebdomadaire, surtout depuis le 7 octobre 2023. Avant le vote, on craignait que ça s'arrête. Heureusement, les rassemblements vont pouvoir continuer.
Reconduit pour 2 ans, Khaled El-Balchi se donne une priorité, faire libérer les 20 journalistes actuellement emprisonnés en Égypte. Un défi dans un pays classé 170e sur 180 en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Martin Dumas-Primbaud, Le Caire, RFI.
Au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema va prêter serment aujourd'hui dans un stade près de Libreville. Il dirigeait déjà la transition depuis la chute du régime Bongo en août 2023. Il a été très largement élu lors de la présidentielle du 12 avril dernier. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus pour la cérémonie, notamment ses homologues guinéens et sénégalais. Ce symbole fort, lundi à Londres, pour les célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des soldats ukrainiens seront dans le cortège, la preuve du soutien mondial contre l'invasion illégale et non provoquée de la Russie. C'est ce qu'a expliqué le ministère britannique de la Défense. En attendant, la guerre continue en Ukraine. Au moins 35 blessés à Kharkiv, selon les autorités de cette ville du nord-est du pays. Ville visée par des drones russes. La Russie et ses espions. La police grecque annonce avoir arrêté hier un homme dans la ville portuaire d'Alexandroupoli. Elle le soupçonne d'espionner pour le compte de Moscou les convois de ravitaillement transitant par ce port pour amener du matériel militaire à l'Ukraine. Précision de notre spécialiste défense, Franck Alexandre.
Officiellement, le suspect est peintre en bâtiment, mais sur son téléphone, les enquêteurs ont découvert des clichés, des convois militaires transitant par la plateforme portuaire d'Alexandroupoli. Son passé ne plaide pas non plus en sa faveur, il a servi dans l'armée russe et les autorités grecques le soupçonnent d'être un agent de renseignement. Alexandroupoli, port en eau profonde, a pris une importance considérable depuis le début du conflit ukrainien. Idéalement situé dans le nord-est de la Grèce, non loin de la frontière turque, ce port permet d'éviter les détroits du Bosphore dont Ankara contrôle l'accès. Conformément à la convention de Montreux, les convois militaires ne peuvent emprunter les détroits en période de conflit. Alexandroupoli s'est donc rapidement imposé comme une alternative pour sécuriser les flux logistique et atteindre l'Ukraine via la Bulgarie. Les États-Unis en ont fait leur principale porte d'entrée. En quelques mois, Alexandroupoli, chef-lieu de la province d'Eros, est devenu une véritable plaque tournante occidentale et otanienne. Et ce port jusque-là méconnu se retrouve possiblement aujourd'hui dans l'œil des espions russes.
Précision de Franck Alexandre. On vote en Australie depuis quelques heures maintenant, élection législative. Nous devons soulever des montagnes, a admis hier le Premier ministre travailliste Anthony Albanese, qui part quand même favori après déjà 3 années à la tête du gouvernement. À Singapour aussi, il y a un favori et même archi-favori. Assez peu de suspense, le parti Action Populaire devrait à nouveau remporter les élections parlementaires de ce samedi. C'est le cas depuis 3 quarts de siècle. Une longévité indiscutable, mais comment Comment l'expliquer ? On a posé la question à Jean-Louis Margolin, historien et spécialiste de Singapour.
Le fait que le système, au fond, ne connaisse jamais vraiment des crises graves, le fait qu'il y ait quand même des possibilités de promotion individuelle pour une nette majorité de la population. Depuis le début des années 60, il n'y a quasiment pas de chômage à Singapour, sinon éventuellement pour des périodes extrêmement courtes. Et puis, une politique éducative extrêmement inclusive. La grande majorité de la population peut se soigner. Au fond, le système fonctionne et les gens ne voient que trop bien, quand ils font la comparaison avec les pays voisins, ce qu'ils auraient éventuellement à perdre au fait que le Parti d'Action Populaire soit chassé du pouvoir. Et ça leur fait peur. Et l'opposition elle-même en est tellement consciente qu'elle s'arrange en quelque sorte pour ne pas pouvoir gagner les élections, ce qui est quand même assez original.
Des propos recueillis par Yelena Tomic. Il est 6h10 à Paris, la France, où une prière mortuaire sera organisée lundi à la Grande Mosquée de Paris devant le cercueil d'Aboubacar Cissé. C'est ce jeune Malien de 22 ans assassiné il y a une semaine maintenant dans une autre mosquée dans le sud du pays. Son meurtrier présumé, un Français de 20 ans, s'est livré il y a quelques jours à la police italienne. Le dossier a été confié au pôle criminel qui a ouvert une enquête, pas le parquet national antiterroriste, comme le réclame pourtant la famille du défunt. La procureure de la République de Nîmes s'en est expliquée hier au cours d'une conférence de presse, le compte-rendu avec Laura Martel.
Selon la procureure, si le parquet antiterroriste n'est pas saisi à ce stade, c'est qu'il est apparu très rapidement que le suspect avait agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou la terreur. Les motivations de l'assassinat relèveraient de ressorts très personnels construits autour de l'envie de tuer quelqu'un, quelle que soit la cible, indique la magistrate. Selon les premiers éléments de l'enquête, Olivia Zovic aurait déjà indiqué son intention de violer des femmes, mais surtout de tuer, il y a un an sur les réseaux sociaux, puis peu avant de passer à l'acte, comme en a témoigné une jeune femme qui a signalé ses posts.
La témoin principale précisait qu'il avait annoncé en amont qu'il allait s'en prendre physiquement à quelqu'un, sans préciser ni qui, ni où, et sans faire référence à une ethnie ou une religion, épris d'une volonté farouche de tuer quelqu'un et à défaut de se suicider, le tout comme un acte libérateur. Elle avait vainement tenté de le dissuader de passer à l'acte peu avant les faits. Sur les postes de son téléphone portable, on trouvait trace de la conversation suivante. « Je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire dans la rue. » Et l'agresseur de poursuivre. « Je vais m'attaquer à la mosquée ? » Point d'interrogation. « J'ai pas trop d'idées. » Une fois sur le site, il est noir. « Je vais le faire. »
Le suspect devrait être extradé vers la France en fin de semaine prochaine.
La précision signée Laura Martel. 6h12 à Paris, on est ensemble pour une petite vingtaine de minutes encore sur RFI. Après ça, ce sera l'actualité africaine. Avant ça, la chronique Vivre ailleurs avec les résultats du premier baromètre 2025 d'Expat Communication. Mais d'abord, l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics, c'est l'accent des autres, présenté par Olivier Nederland de la RTBF.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici comme chaque semaine l'actualité de ces derniers jours avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. Et d'abord cette manœuvre au Mali, des concertations organisées par la junte au pouvoir avec des organisations qui lui sont acquises. Et elle préconise la dissolution des partis politiques, Nicolas Sûr, plus de partis et par ailleurs le maintien à la présidence du chef de la junte.
Oui, le général Assimi Goïta deviendrait président de la République pour 5 ans. Le mandat serait renouvelable, le tout sans passer par la case élection.
Au Canada, les libéraux ont remporté les élections fédérales de lundi dernier, Nadi Mobarak.
Oui, et le premier ministre Mark Carney va diriger un gouvernement libéral minoritaire.
Le gouvernement suisse l'a décidé cette semaine. Les accords négociés avec l'Europe seront soumis au peuple, mais au peuple seulement, Pierre Anchoffat.
Il ne sera en effet pas nécessaire qu'une majorité de cantons soit dans le camp du oui, une stratégie politique pour limiter le pouvoir de blocage des petits cantons souvent réfractaires sur la question européenne.
On l'attendait depuis de longues années à Liège, en Belgique. Le tram est entré en fonction cette semaine. Il permet à la cité ardente, comme on l'appelle, de rejoindre le réseau des villes européennes qui modernisent ou réintroduisent ce type de transport. Jacques Crémers.
Oui, après Bruxelles, mais aussi Strasbourg, Bordeaux, Lisbonne ou encore Budapest, le tram a donc fait son apparition en bord de Meuse, à Liège. Les passagers étaient plutôt enthousiastes, curieux aussi, après des années d'embarras.
Enfin, nous serons à Chambéry pour évoquer la fête du travail en France. Un 1er mai, jour férié pour pas mal de pays cette semaine, mais pas pour tous. Et nous verrons qu'en France, eh bien, tout le monde ne peut pas forcément travailler sous peine d'amende. Une consultation des forces vives orchestrée par les autorités et boycottée par l'opposition, donc tout d'abord au Mali. Nicolas, elle recommande à la fois la dissolution des partis politiques et le maintien à la présidence du général Assimi Goïta.
Oui, pas d'élection avant la pacification du pays, autant dire avant longtemps, dans un Mali en guerre depuis déjà 15 ans contre plusieurs groupes djihadistes et rebelles, loin d'être affaibli. En attendant, le général Assimi Goïta est durablement installé à la tête de l'État. Il passe de président de la transition à président de la République pour 5 années renouvelables à compter de cette année. Les militaires putschistes avaient pris le pouvoir en 2020. La totalité des partis politiques existants doit être dissous. Les conditions exigées pour en créer de nouveaux sont drastiques. Leurs financements publics sont supprimés, tout comme le statut de chef de file de l'opposition. Les chefs traditionnels ou religieux, ainsi que les membres de la société civile, ont interdiction de se présenter aux élections, lorsque les autorités les jugeront possibles. Toutes ces recommandations doivent encore être officiellement validées par le général Assimi Goïta. Certaines nuances ne sont donc pas à exclure.
Oui, cela dit, le Conseil des ministres a adopté sans attendre le projet de loi qui abroge l'actuelle charte des partis politiques.
Oui, le projet de loi doit désormais être voté par le Conseil national de transition qui fait office de parlement depuis le premier coup d'État. La Cour constitutionnelle pourrait également être saisie puisque la formation et les activités des partis politiques sont garanties par la Constitution. Mais ces institutions ne devraient pas poser de problème, toutes deux étant acquises aux militaires au pouvoir. Les partis, eux, dénoncent des concertations cousues de fil blanc et assurent ne pas vouloir se laisser faire.
À propos d'élections et de partis, les Canadiens ont fait leur choix lundi dernier. Le Parti libéral de Mark Carney formera le prochain gouvernement à Ottawa, Nadi.
Oui, et ce sera un gouvernement minoritaire. Les libéraux ont toutefois obtenu une minorité forte, raflant 168 sièges dans 343 circonscriptions. Pour former un gouvernement majoritaire, ils avaient besoin de 4 sièges de plus. Le Parti conservateur du Canada a quant à lui obtenu 144 sièges. Mais la défaite de son chef, Pierre Poilievre, dans sa circonscription, soulève des questions sur son avenir. Le Bloc québécois, qui a remporté 23 sièges, et le nouveau Parti démocratique 7, pensent leur plaie après des résultats décevants. Le NPD a d'ailleurs connu la défaite la plus cuisante de son histoire, en perdant plus des 2/3 de ses sièges. Son chef, Jagmeet Singh, a annoncé qu'il va quitter son poste à l'issue de cette défaite.
Et la victoire des libéraux leur permet donc d'obtenir un 4e mandat consécutif, Nadi.
Tout à fait, ce qui est très rare en politique canadienne. Et maintenant qu'il a gagné, Mark Carney devra négocier avec le président des États-Unis sur la question tarifaire.
Les défis devant nous sont intimidants. Et c'est normal. Les grands changements, comme ceux que nous vivons, sont toujours inquiétants. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous. J'ai confiance au Canada.
Et le chef libéral n'a pas perdu de temps. Il s'est entretenu avec Donald Trump au lendemain de sa victoire électorale.
Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est dit lors de cet appel téléphonique?
Eh bien, selon le bureau du Premier ministre, les deux hommes ont convenu de l'importance pour le Canada et les États-Unis de travailler ensemble en tant que nation indépendante et souveraine dans le but d'améliorer la situation des deux pays. Ils ont aussi l'intention de se rencontrer en personne prochainement. Le président Trump a aussi commenté l'entretien en qualifiant le chef libéral d'homme très gentil, ajoutant qu'il l'avait félicité pour sa victoire de lundi.
Les Canadiens ont voté, les Suisses devront, eux, voter une nouvelle fois sur leur relation avec l'Union européenne. Pierre-Anne, ce sera sans la double majorité du peuple et des cantons. Alors expliquez-nous tout d'abord cette particularité de la démocratie helvétique.
Eh bien, pour faire simple, quand on veut modifier la Constitution, il faut franchir la barrière de cette double majorité, obtenir un oui du souverain, mais aussi de la majorité des cantons. C'est en quelque sorte une protection pour que les grands cantons, souvent plus ouverts et plus progressistes, n'imposent pas leur vue aux petits cantons plus conservateurs. Une manière donc de préserver la paix confédérale, et les citoyens de ces petits cantons ont jusqu'ici bloqué la volonté du peuple 10 fois. Par exemple, sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers ou le soutien aux crèches, le plus récent date de 2020, lors du rejet des multinationales responsables à qui une courte majorité du peuple voulait imposer des normes éthiques et environnementales.
Et donc, pour la question européenne, le gouvernement veut éviter cette capacité de blocage des citoyens des petit canton.
Il estime que la double majorité n'est pas nécessaire, la constitution n'est pas amendée par ces accords et il n'est pas question d'adhésion. D'ailleurs, tous les votes qui ont émaillé la voie bilatérale avec Bruxelles l'ont été à la majorité simple du peuple, un choix qui fâche les conservateurs de l'UDC comme le député Manfred Buller.
Ces accords vont nous obliger de reprendre automatiquement le droit décidé à Bruxelles. Il s'agit donc d'une atteinte au fondement même de la souveraineté de la Suisse et ce point-là ne saurait être voté à une majorité simple.
Sa collègue socialiste Laurence Fellmann-Riel est-elle convaincue par la décision du gouvernement ?
Il me semble important que tous les citoyens suisses puissent avoir le même poids. Or, quand on a la double majorité, eh bien, il y a les citoyens de petits cantons qui ont plus de poids que les citoyens qui appartiennent à des grands cantons.
Car oui, si le gouvernement avait choisi la double majorité, le nom d'un seul Appenzellois vaudrait en effet autant que le oui de 39 Zurichois.
Pierre Anchoffa pour la Radio-Télévision Suisse.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Des années de travaux et de discussions, une vraie saga, mais cette fois ça y est, le tram a été inauguré en ce début de semaine à Liège, en Wallonie, en Belgique, et les Liégeois étaient plutôt enthousiastes et curieux de découvrir ce nouveau mode de transport, Jacques.
Fini les bus dans le centre-ville, place à un convoi de 45 mètres, tout de noir et de gris, en souvenir du passé sidérurgique de Liège. Et malgré l'heure matinale, 4h20, ils étaient déjà des dizaines au rendez-vous de la première rame.
Bienvenue à bord de ce premier tram. Je vous souhaite un bon voyage pour ce premier aller.
Les travaux ont duré plusieurs années, occasionnant de nombreux embarras, impacts sur la circulation, le stationnement, les commerces, un parcours de 11 km 700, une mise en service plusieurs fois reportée. Mais pour cette première sortie, les Liégeois sont au rendez-vous, curieux et plutôt enthousiastes.
Et c'est beaucoup mieux que les bus. Et quand on est à l'intérieur, on est bien. Hein. Franchement, c'est tout beau, tout nouveau, on est bien assis. On ne sent pas les bosses. Moi, j'adore. Je suis contente, moi.
Les plaisirs de la découverte n'ont cependant pas empêché des petits problèmes de jeunesse et quand le tram tombe en panne ou connaît des dysfonctionnements, retour au bon vieux bus pour proposer des navettes aux passagers.
Premier trajet jusque Coromeuse, magnifique, à peine 40 minutes. Alors le retour, pardon. Ici, on est placé généralement, donc on est encore loin du standard. Et il nous a déjà fallu 1h40 pour revenir.
Dans les prochains jours et semaines, le tram va monter en puissance et on l'espère en assurance. Liège rejoint ainsi les nombreuses villes européennes qui, comme Bruxelles, Strasbourg, Lisbonne ou Budapest, font confiance à ce mode de transport de grande capacité et moins polluant.
Enfin, la fête du travail, c'était ce 1er mai, jeudi dernier, dans de nombreux pays, un jour férié, mais pas partout, pas en Suisse par exemple, ou au Canada, où la fête du travail, c'est le 1er septembre. En France, par contre, c'est bien un jour férié, et beaucoup de commerçants se sont interrogés cette année, ouvrir ou rester fermé, parce qu'en fait, il y a des règles. La semaine dernière, par exemple, un boulanger parisien a fait l'actualité. Il est menacé d'une amende de près de 80 000 euros pour avoir fait travailler ses salariés le jour de la fête du travail, c'était il y a 4 ans. Concrètement, en fait, dans le Code du travail, les patrons ont le droit d'ouvrir leur commerce, mais pas d'embaucher des salariés. Seuls les commerces qui permettent d'assurer ce qu'on appelle une continuité minimum de la vie en société peuvent le faire. Pour les supérettes ou les restaurants, ça marche, mais pour d'autres commerces, comme les fleuristes ou les coiffeurs, eh bien, on est dans le flou, comme l'a constaté Jules Hauss à Chambéry, pour Ici, Pays de Savoie.
Ça fait 22 ans qu'elle s'est installée en tant que fleuriste à Chambéry, mais c'est la première fois que Rachel se pose la question d'ouvrir le 1er mai.
On découvre, en fait. Moi, à aucun moment, en 22 ans, on s'est posé la question. On est fleuriste, on vend du muguet, on ouvre le 1er mai. Moi, j'ai 4 personnes ici, j'ai 2 salariés, 2 apprentis. Je vais peut-être en prendre que 2 avec moi, puis les clients attendront. On manquera pas de leur dire pourquoi ils attendent.
Du sécateur à la tondeuse, le problème est le même. Bilel, coiffeur et barbier, remplit son salon avec ses 2 salariés presque tous les jours fériés de l'année, 1er mai compris, mais pas cette année.
Parce que s'il me chope avec un coiffeur, avec, j'ai entendu minimum, ça sera 1500 euros d'amende. Voilà. Mais après, je comprends pas. Les snacks, ils ont le droit d'ouvrir. Après, la fin du mois, c'est nous qui on sait si on arrive ou on n'arrive pas.
Reportage de Jules Hauss pour Ici, Pays de Savoie. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous de l'accent des autres. Les médias francophones publics vous retrouvent avec plaisir la semaine prochaine à la même heure. Excellente fin de semaine.
Et à la semaine prochaine, Olivier Nederland. 4h24 en temps universel. Les résultats du premier baromètre 2025 d'Expat Communication viennent de paraître. La scolarité des enfants internationaux, c'est le nom de cette première enquête qui explore les coulisses de la scolarisation en environnement international en donnant la parole aux parents. Alix Carnot est la directrice associée chez Expat Communication pour Vivre ailleurs. Elle est interrogée par Corinne Manjou.
Les parents, en fait, quand ils scolarisent leurs enfants à l'étranger, avant même de choisir l'école en elle-même, ils vont choisir le type de scolarité, c'est-à-dire l'école locale, le système français ou le système international non français, et notamment souvent américain. Ensuite, ils vont choisir l'école. Et il n'y a que 2% des parents qui nous disent qu'ils choisissent le système d'école parce qu'ils sont contraints par l'offre. Après, ils vont choisir le système en fonction de la langue d'enseignement, sa réputation académique, la proximité, bien sûr. Les familles binationales vont aller beaucoup plus sur l'école locale que les enfants d'expats. Donc, ça dépend beaucoup des types de familles et ça dépend de là où on est. Dans un pays dont vous parlez la langue et où le niveau d'études est bon, vous allez privilégier l'école locale. Et c'est le cas aux États-Unis où il y a beaucoup plus de gens qui mettent leurs enfants à l'école locale et assez peu dans les systèmes français. Si vous parlez pas la langue ou si le niveau scolaire local est pas bon, dans ce cas-là, bien sûr, vous allez privilégier notamment le système français. Et ça va être le cas, par exemple, en Afrique.
Quoi qu'il en soit, les enfants qui arrivent devront s'adapter. Est-ce qu'il y a des cas de harcèlement scolaire à l'étranger?
Oui, il y en a. 20% des familles citent des cas de harcèlement, donc c'est assez important. Et ça, ça touche tous les systèmes. C'est essentiellement du harcèlement verbal. À l'école locale, ça va être plus souvent du harcèlement lié à la nationalité, parce que les enfants qui viennent d'ailleurs sont plus rares. Mais dans tous les cas, il y a assez peu de violence physique.
Comment les enfants s'adaptent-ils à leur nouvel établissement?
Les enfants s'adaptent globalement très bien à l'école. Entre les très bien et les bien, c'est 84% des enfants. Donc globalement, c'est très satisfaisant. En revanche, il y en a quand même 20% qui ont besoin d'un soutien pour s'adapter. Et c'est avant tout du soutien psychologique quand même.
Et cette adaptation, est-ce que vous avez constaté une variation en fonction de l'âge? Est-ce que les plus petits s'adaptent plus facilement que les plus grands?
Les parents étaient unanimes pour dire plus c'est jeune, plus c'est facile. Et c'est beaucoup plus difficile de s'expatrier avec des jeunes et encore plus des grands ados. Ce qui est assez logique, puisque l'adolescence, c'est se détacher de sa famille et que l'expatriation, ça vous renvoie dans votre famille.
Ça nous ramène directement à l'orientation scolaire. On sait qu'en France, déjà, Parcoursup, c'est pas évident. Comment ça se passe à l'étranger?
On va multiplier la complexité Parcoursup par le nombre de pays cibles. Et selon les systèmes que vous avez choisis, des établissements sont plus ou moins outillés pour vous aider dans la découverte de Parcoursup. Par exemple, si vous êtes à l'école locale en Allemagne, ça va être très compliqué d'avoir du soutien sur Parcoursup. Mais même si vos enfants sont dans une école internationale et sont intéressés par les Pays-Bas, par exemple, une destination qui attire beaucoup les jeunes francophones, il n'est pas du tout évident que les écoles soient à la hauteur.
À l'étranger, les frais de scolarité sont assez élevés. Qui paye, les parents ou les employeurs à majorité?
En grande majorité, à 67%, c'est les parents. Ceux qui sont en contrat local se débrouillent tout seuls. Ou alors éventuellement, la scolarité est gratuite, mais ça concerne que 7% de l'ensemble des parents expatriés. Vous voyez, c'est très peu, c'est pas du tout comme en France. Les parents qui sont expatriés, dans la plupart des cas, c'est l'entreprise. Quand on regarde selon le type d'école, l'école française est payée dans 20% des cas par l'entreprise. Pour le système international, on monte à 30%, un peu plus de 30% des enfants dont la scolarité est payée par l'entreprise des parents. Donc, le système de bourse ne concerne que le système français. Il n'y a quasiment pas de bourse dans le système local. Moins de 10%, 11% dans le système international et 46% dans le système français. Donc, c'est une de ses spécificités.
C'était Alix Carnot, directrice associée chez Expat Communication pour la chronique Vivre ailleurs, présentée par Corinne Manjou, une chronique à retrouver évidemment sur notre site internet, comme nos autres chroniques et reportages. À suivre le journal Afrique en français, sauf si vous nous écoutez en Swahili en Afrique de l'Est. Là, vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili. J'en profite pour remercier Michael Verne qui était à la réalisation de cette demi-heure d'information. Merci à lui, merci aussi à Raphaël Rennes et Pierre Pinto qui étaient à la rédaction en chef. Et puis merci à vous d'être fidèles à la radio du monde. L'information africaine arrive donc. Je vous dis à tout de suite sur RFI.
L'épopée des musiques noires. Le bassiste et compositeur sénégalais Alun Wad veut relier les deux rives de l'Atlantique dans un élan de célébration musicale. Avec New African Orleans, il fait le pont entre la source africaine du jazz et son développement américain. Enregistré à Lagos, Dakar et la Nouvelle-Orléans, l'album reflète la créolité musicale et l'héritage ancestral de ces villes. Joe Farmer nous propose de le découvrir dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h31.
RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Deux femmes que tout oppose, une écrivaine hostile au nazisme et une cadre des jeunesses hitlériennes, se retrouvent à errer dans un pays meurtri par la guerre. La seconde va devoir kidnapper la première. Dans son roman « Les Vagabondes », Florian Ferrier nous fait vivre les dernières semaines de la Deuxième Guerre mondiale, mais côté allemand.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41, sur RFI.